Il va nous parler aujourd'hui des aliments de demain. Monsieur, c'est à vous.
Merci. Bonsoir, je suis très sensible à l'honneur qui m'a été fait de m'exprimer dans le cadre de cette série de conférences. Je ne sais pas si je dois remercier les organisateurs de m'avoir proposé ce titre, Les aliments de demain, que j'ai accepté avec plaisir, mais c'est un exercice périlleux puisqu'il devrait consister à se livrer à faire de la futurologie en matière d'alimentation. Je pense que c'est un peu risqué, alors je vais esquiver en partie la difficulté. Il y a des questions, des hypothèses auxquelles il est facile de répondre. Par exemple, quand j'étais adolescent, j'entendais souvent autour de moi dire « mais que nous prépare-t-on comme aliment pour demain ?» C'était il y a un certain temps. « On va nous faire manger des pilules. » Alors ça, c'est assez facile à contredire, parce que les aliments les plus énergétiques que nous connaissons aujourd'hui sont les lipides. Leur densité, c'est 9 kilocalories par gramme. Le besoin énergétique moyen, qui est le nôtre aujourd'hui, tourne autour de 2000 à 2500 kilocalories. Ça voudrait dire que pour satisfaire nos besoins énergétiques, il faudrait consommer entre 200 et 300 grammes de pilules. Alors, outre le fait qu'il est bien difficile de se nourrir seulement de lipides, ça fait bien lourd pour des pilules. Donc ça, il était facile de répondre à cette question. Vous allez voir qu'il est sans doute plus difficile de répondre à d'autres questions concernant notre alimentation de demain. En fait, qu'attendons-nous de notre alimentation? Je pense qu'on peut résumer ces attentes en quatre propositions, qu'elles soient saines. Quand j'utilise le mot saine, c'est, je pense aux relations entre l'alimentation et la santé, donc c'est plutôt les aspects nutritionnels. Qu'elle soit sûre, alors ça sont tous les problèmes de sécurité sanitaire des aliments dont on vous abreuve depuis quelques mois. Alors, c'est pas moins important que cette alimentation nous apporte du plaisir, au moins dans nos civilisations. C'est peut-être pas vrai pour tous les pays, mais pour les Français, je pense que ça reste tout à fait majeur. Et puis que cette alimentation soit adaptée à notre mode de vie. En d'autres termes, nous recherchons un certain nombre de qualités de notre alimentation. Ces qualités reposent sur quatre piliers qui sont donc la satisfaction ou le plaisir, c'est ce que j'ai déjà évoqué, et qui tournent autour de la saveur, de la couleur, de l'odeur, de la texture. Sur la qualité de service, donc c'est le mode de distribution, le mode de présentation, la taille des portions qui vous sont proposées, le mode de stockage, la facilité de préparation. Sur ces deux critères de qualité, nous sommes tous capables de porter un jugement. C'est bon, c'est moins bon, c'est pas bon, c'est pratique. Par contre, sur les deux autres piliers de cette qualité des aliments, qui sont la santé, donc la valeur nutritionnelle, et puis la sécurité sanitaire, il nous est beaucoup plus difficile, nous-mêmes, non spécialistes, de porter un jugement. Et donc il faut s'en remettre le plus souvent à ce que vous en disent les scientifiques, les médias, les pouvoirs publics, le corps médical, mais nous ne pouvons pas, sauf avec grande difficulté, porter nous-mêmes, évaluer précisément le niveau de qualité. Alors, je vais commencer par... Je vais faire tout d'abord l'impasse sur ce qu'il nous est possible de juger nous-mêmes. En 50 minutes, il n'est pas possible d'aborder tous les aspects concernant l'alimentation. Donc, je ne vais pas aborder les problèmes du plaisir lié à l'alimentation, ni ceux liés à l'adaptation à nos modes de vie, donc à la praticité des aliments. Et je vais me centrer plus sur les deux autres aspects qui sont la valeur nutritionnelle, donc la valeur santé, d'une part, et puis la sécurité sanitaire. Et je ne vais pas commencer par la sécurité sanitaire. Parce que peut-être, contrairement à ce que peuvent laisser penser aujourd'hui les médias, je pense qu'en matière de relation entre l'alimentation et la santé, c'est la nutrition qui me semble la plus importante et la plus préoccupante en matière de protection de notre santé. Je ne suis pas sûr que les aspects de sécurité sanitaire sur lesquels on insiste beaucoup ces jours-ci soit sur le plan de la santé, les aspects les plus préoccupants, mais sans doute les aspects les plus préoccupants sont-ils ceux qui sont liés à notre comportement alimentaire, à la façon dont nous nourrissons, au choix des aliments que nous effectuons et à leur valeur nutritionnelle. C'est pour ça que je vais commencer mon exposé par le défi pour le nutritionniste, améliorer encore la qualité sanitaire, donc la valeur nutritionnelle de notre alimentation. Alors dans quel contexte est-ce que cette réflexion sur les relations entre l'alimentation et la santé se situe-t-elle? Bien, les conceptions de l'alimentation ont beaucoup évolué depuis quelques siècles. Dans un premier temps, il s'agissait essentiellement de survivre, même la faim au ventre. Alors ensuite, s'il était possible de satisfaire sa faim, c'était encore mieux. Et puis, au début de la deuxième moitié du XXe siècle, on a beaucoup insisté sur les relations négatives entre l'alimentation et la santé. Par exemple, les lipides sont responsables des maladies cardiovasculaires, attention, chasse aux lipides, ou les glucides sont responsables du diabète et aussi des maladies cardiovasculaires, la chasse au sucre. C'était souvent le côté négatif de notre alimentation qui était mis en avant, à juste titre d'ailleurs, souvent. Mais on oubliait aussi que cette alimentation a des côtés, des aspects bénéfiques. Et on a vu, à la fin des années 80, une nouvelle approche où on considérait que l'alimentation pouvait aussi, elle pouvait mettre en danger notre santé, mais elle pouvait aussi préserver cette santé. Donc un aspect prévention. Et on en est aujourd'hui, au début de l'année 2000, à une conception, pour les scientifiques en tout cas, mais aussi pour les industriels de l'agroalimentaire, à une conception qui consiste à penser qu'on peut mieux adapter notre alimentation pour essayer de nous permettre d'abord un bien-être supérieur et puis aussi pour retarder l'apparition d'un certain nombre de pathologies qui ont une composante nutritionnelle. Et donc, peut-être sommes-nous trop idéalistes, mais nous imaginons que, en réfléchissant un peu mieux à notre alimentation, nous pourrions réduire les risques des maladies, non pas les faire disparaître, ne soyons pas totalement utopiques. Le contexte, alors là aussi je vais limiter mon propos à l'alimentation des populations des pays industrialisés. C'est pas que j'attache pas beaucoup d'importance à l'alimentation des pays en développement, je crois que là encore il n'était pas possible d'aborder les deux aspects en aussi peu de temps, et donc j'ai choisi de me limiter à l'alimentation de demain des populations des pays industrialisés, mais bien entendu au cours de la discussion on pourra aborder les problèmes d'alimentation des pays en développement qui se posent dans des termes totalement différents et dans un contexte totalement différent. Le contexte dans nos pays est le suivant. On assiste à une augmentation des dépenses de santé qui est une précaution majeure des gouvernements de tous ces pays industrialisés qui n'arrivent pas à maîtriser ces dépenses de santé. En même temps, on assiste à une augmentation de l'espérance de vie qui ne faiblit pas, augmentation qui ne faiblit toujours pas, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ça plafonne, et nous assistons toujours à une augmentation de notre espérance de vie. Et donc, à une augmentation du pourcentage de la population âgée. Le consommateur demande beaucoup plus que par le passé à son alimentation. Bon, on a vu qu'il demandait une alimentation saine, une alimentation sûre, une alimentation agréable et une alimentation pratique et puis une alimentation, j'y reviendrai en conclusion, la plus économique possible. Dans le même temps, on a un progrès considérable des technologies de transformation, donc de préparation de nos aliments. Et puis, un aspect plus inquiétant, une augmentation qui est réelle des maladies liées à l'alimentation, enfin liées à l'alimentation, dont une composante au moins est liée à l'alimentation. Par exemple, quelque chose d'inquiétant qui est observé en France depuis une dizaine d'années maintenant, c'est l'augmentation de l'obésité chez les enfants. Et on peut craindre que ces problèmes d'obésité que les Américains ont connus bien avant nous ne nous rejoignent d'ici quelques années. Et ça, c'est tout à fait préoccupant en termes de conséquences sur la santé des adultes que deviendront ces enfants, parce que là, il est parfaitement démontré que cette obésité va être la cause d'un certain nombre de pathologies. Pas la seule cause, mais une cause aggravante. Quelles sont les hypothèses que font les scientifiques sur les relations entre l'alimentation et la santé? Bien, on a maintenant un certain nombre d'assurances selon lesquelles l'alimentation contrôle et module diverses fonctions de notre organisme, des fonctions qui sont importantes pour son bon fonctionnement, et que donc cette alimentation participe d'une certaine façon à un état de bonne santé qui est nécessaire pour réduire les risques de maladie. La façon dont on aborde ces relations alimentation-santé, donc je l'ai dit, a beaucoup évolué, puisque donc dans les années 80, les études étaient surtout centrées sur les risques pour la santé, et qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus orientées vers les effets potentiellement préventifs. Alors, j'ai choisi deux exemples aux États-Unis pour, à l'appui de ce que je vous dis. Vous allez me dire que les États-Unis d'Amérique ne sont pas le meilleur modèle en matière d'alimentation. Donc, j'aurais pu trouver les mêmes exemples en Europe. En 1989, l'Académie de médecine américaine et National Research Council ont publié un très gros ouvrage qui faisait le bilan de ce qu'on connaissait à l'époque sur les relations entre l'alimentation et la santé. Et on voit que dans le sous-titre de cet ouvrage, on parle déjà de la réduction des risques de maladies chroniques. Un peu plus tard, et ça c'était encore une évolution vers ce caractère préventif de l'alimentation, toujours l'Académie de médecine américaine, par le biais du National Research Council, publié un ouvrage où on s'inquiétait de la présence de composés cancérogènes dans l'alimentation, mais dans le même temps, on s'intéressait aussi à des molécules protectrices vis-à-vis des cancers. Donc vous voyez cette évolution qui est très nette, au moins dans le monde scientifique. Alors, dans le même temps, pourquoi cette évolution et pourquoi cette nouvelle espérance, je dirais, en matière d'alimentation et de relations alimentation-santé? À cause des fantastiques progrès de la biologie, liés en grande partie aux progrès de la génétique, de la biologie moléculaire et cellulaire, j'ai retenu un seul exemple pour vous montrer ce saut technologique qui a été fait dans les connaissances concernant les relations entre l'alimentation et le fonctionnement de notre organisme. Au début des années 80, les biologistes moléculaires riaient au nez des nutritionnistes quand quelques hardis nutritionnistes prétendaient que certains constituants de notre alimentation étaient capables de réguler l'expression de gènes. Ça paraissait totalement anachronique. Comment des composés aussi banals que certains constituants d'alimentation pouvaient avoir un tel rôle? Alors, c'est en 86 que, pour la première fois, on a apporté la preuve qu'effectivement, certains constituants de l'alimentation étaient capables de réguler l'expression de gènes. Et là, j'ai choisi un exemple qui concerne la vitamine A. On a démontré en 1986 que cette vitamine A était capable d'agir sur un certain nombre de mécanismes moléculaires par l'intermédiaire de récepteurs nucléaires qui interviennent en particulier dans le développement embryonnaire. Et donc voilà une expérience qui a été réalisée un peu plus tard sur des embryons de poulet. Les membres du poulet, les membres antérieurs, se développent à partir de bourgeons. Et normalement, donc, ce membre se développe de la façon suivante. Il y a un doigt, ici, et un pouce très court. Si on place à cet emplacement, qui va donner naissance au pouce, donc à un doigt extrêmement court, une petite bille qui est imprégnée d'acide rétinoïque, qui est le composé actif qui est formé à partir de la vitamine A présente dans nos aliments. Si donc on place cette bille imprégnée d'acide rétinoïque ici, on s'aperçoit qu'au lieu d'avoir un développement normal de la patte du poulet, on va avoir deux doigts. Bon, donc ceci pour vous démontrer que ce dérivé banal d'un aliment, la vitamine A, est capable de modifier considérablement le développement embryonnaire. Et ça pouvait avoir des conséquences. On savait que d'une part la carence et d'autre part l'excès de vitamine A était capable de provoquer des malformations fœtales. Et au début des années 90, nous nous sommes beaucoup inquiétés parce que nous avons observé, un peu par hasard, que dans les foies d'animaux d'élevage, on pouvait trouver des quantités très très importantes de vitamine A. Alors pourquoi? Parce qu'on utilisait beaucoup de vitamine A dans l'alimentation des animaux, soi-disant pour préserver leur santé et pour qu'ils croissent plus vite, et que ces très grosses quantités de l'alimentation animale étaient transférées finalement dans le foie des animaux d'élevage. Et on a eu très peur, parce que les concentrations qui étaient atteintes étaient de nature à faire craindre des malformations chez les femmes enceintes. Un de nos collègues anglais a eu l'idée cependant de penser que peut-être que la vitamine A en grande quantité dans un aliment, dans une matrice alimentaire, était peut-être moins dangereuse à quantité égale qu'une pilule de vitamine A. Et il s'est livré à cette expérimentation chez des femmes, de jeunes femmes en bonne santé, évidemment sous contraceptif, puisqu'il n'était pas question de leur faire courir de risques lors d'une grossesse, auquel il a été administré soit sous forme de pilule, soit sous forme de tranches de foie de veau, la même quantité de vitamine A. Des quantités très fortes, 50 mg ou 150 mg. Et puis on a regardé dans leur sérum sanguin l'apparition d'acide rétinoïque, qui est le composé dangereux lorsqu'il est en excès. Et on s'est aperçu de cette chose extraordinaire, c'est que lorsque la vitamine A à forte dose est administrée dans du foie, l'élévation sérique d'acide rétinoïque est très faible, alors que lorsqu'elle est administrée sous forme de pilule, aux mêmes quantités, il y a un pic très important d'acide rétinoïque. Et donc là, on peut craindre des effets de malformation sur le fœtus. Et donc finalement, on s'était peut-être inquiété à tort, parce que la vitamine A dans un aliment n'a pas les mêmes effets que la vitamine A dans une pilule. Je crois que c'est une leçon un peu générale qu'on peut retenir, c'est que des composés actifs ont des effets différents selon qu'ils sont présents dans une matrice alimentaire dans laquelle on a des interactions très complexes avec les autres constituants, ou selon qu'ils sont présents et très rapidement libérés dans notre organisme sous forme d'une pilule ou d'une gélule. Donc les connaissances scientifiques ont été bouleversées par cette apparition de la biologie moléculaire et cellulaire et des nouvelles technologies disponibles. Donc ça a été un saut technologique, et la nutrition est passée d'une discipline qui était extrêmement descriptive à une discipline qui est devenue, ou qui essaye de devenir de plus en plus, explicative de mécanismes. Et c'est bien ces mécanismes des relations entre les constituants des aliments et des fonctions physiologiques qui nous intéressent, et des fonctions cellulaires et des fonctions moléculaires qui nous intéressent aujourd'hui. Je vais m'arrêter un petit moment sur une action de coopération scientifique qui a été développée au niveau européen, soutenue par la direction de la recherche de la Commission européenne, et qui a rassemblé à peu près 80 scientifiques, essentiellement en provenance des organismes publics de recherche, organismes et universités, mais aussi quelques scientifiques des grandes firmes et de moins grandes de l'agroalimentaire. Et au cours de ce travail qui a duré un peu plus de 3 ans, un certain nombre de thématiques ont été identifiées sur lesquelles il nous semblait possible d'avancer un peu plus vite quant à la meilleure connaissance des mécanismes des relations alimentation-santé. Alors j'ai mis en jaune ce qui me paraît le plus innovant sur le plan scientifique. Croissance, développement, différenciation, c'est directement en rapport avec ce que je vous ai montré concernant le développement de la pâte de poulet. Quelle peut être l'influence de l'alimentation maternelle, donc de l'alimentation du fœtus, sur son développement ultérieur, la différenciation de ses tissus? C'est vraiment une voie qui s'est ouverte grâce à ces améliorations des connaissances en biologie et en génétique et en biologie moléculaire. Et c'est une voie qui est promise à un développement très rapide. Quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le rôle des antioxydants. Alors c'est une théorie qui est un peu galvaudée, me semble-t-il, mais qui a quand même un fondement solide. On pense qu'un certain nombre de pathologies ont au moins une composante qui est due à l'action de composés extrêmement réactifs qui sont formés par oxydation de nos constituants cellulaires, qui forment des radicaux libres et qui vont s'attaquer aux acides nucléiques, aux protéines, aux membranes de nos cellules, et qui vont donc être responsables d'un certain nombre de pathologies. Et on met ces radicaux libres en relation avec les maladies cardiovasculaires, avec certains types de cancers. Et donc il existe dans nos aliments un certain nombre de molécules qui nous permettent de lutter contre ces radicaux libres. Et donc c'est toute une série de recherches qui se développent maintenant très rapidement. Quelque chose qui n'avait pas été beaucoup l'objet de recherche jusqu'à présent, c'était l'étude des relations entre l'alimentation et le comportement ou les fonctions psychologiques, la relation entre l'alimentation et le psychique. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité et qui intéresse évidemment tout le monde, mais beaucoup aussi nos décideurs politiques, parce que, donc je l'ai signalé déjà, le pourcentage de personnes âgées augmente. Le vieillissement s'accompagne en général d'un certain nombre d'affaiblissements de nos performances intellectuelles, et chacun d'entre nous est évidemment intéressé par toute possibilité de réduire, au moins de ralentir, cette baisse des performances intellectuelles. Puis bien entendu, donc, des sujets qui sont aussi tout à fait d'actualité, métabolisme des substrats, on pense surtout au problème du diabète non insulinodépendant, qui est une affection qui se développe beaucoup aussi dans nos populations, aux maladies cardiovasculaires. Et puis là, peut-être quelque chose qui est à la fois en relation avec des cancers, vous savez que les cancers du tube digestif sont parmi les cancers les plus fréquents, mais aussi le bien-être. Des troubles digestifs qui n'ont pas de répercussions graves en matière de santé, mais qui nous gâchent la vie, c'est quelque chose aussi qu'on peut améliorer par une alimentation mieux adaptée, plus adaptée. Donc voilà un certain nombre de thématiques scientifiques qui ont donné naissance, je dirais au début des années 90, à un concept que certains baptisent d'aliments fonctionnels. Alors, bon, c'est un terme un peu barbare. Je reviendrai après sur ce que moi j'entends par aliment fonctionnel. Mais en tout cas, ça peut être un aliment tout à fait naturel dans lequel on n'a rien changé, mais pour lequel on a vraiment identifié des propriétés intéressantes en matière de prévention et de protection de la santé. Ça peut être un aliment auquel on a ajouté quelque chose. Vous trouvez sur les linéaires aujourd'hui tout un tas de produits dans lesquels on a ajouté des vitamines, en particulier beaucoup de lait, dans lesquels on a ajouté des vitamines. Ça peut être aussi un aliment dont un constituant a été enlevé par des moyens technologiques ou biotechnologiques. Par exemple, au Japon, on commercialise des riz dits hypoallergiques ou hypoallergéniques, dans lesquels on a, par génie génétique cette fois, c'est un OGM, j'en parlerai plus des OGM, après, mais dans la discussion, on pourra en parler, mais je pense que ça m'aura entraîné trop loin dans ma présentation. Donc, hypoallergénique, parce qu'on a enlevé une des protéines qui est la plus allergène dans le riz. Donc, il y a des choses intéressantes qu'on peut faire aussi avec les biotechnologies. En tout cas, il s'agit bien d'aliments, et ni de pilules, ni de gélules. Et j'ai vraiment horreur d'entendre prononcer les termes d'alicaments ou de nutraceutiques. Je pense que dans notre culture, nous ne nous alimentons pas à des fins pharmacologiques. Nos aliments ne sont pas des médicaments, à la différence d'autres cultures, en particulier dans les pays asiatiques où l'alimentation est une médecine, mais c'est toujours des aliments. Hein, c'est très rarement des pilules ou des gélules. Donc je ne vous parlerai pas du tout de pilules ou de gélules. Ces aliments fonctionnels seraient adaptés à des groupes de population qui ont des besoins particuliers. Des besoins particuliers, soit parce qu'ils sont placés dans des conditions de vie elles-mêmes un peu particulières, ou que ces groupes de population sont à un stade physiologique de leur développement qui justifie des besoins particuliers. Il peut s'agir de jeunes enfants, d'adolescents, de femmes enceintes, de femmes allaitantes, ou de personnes âgées, ou très âgées. Donc il y a des besoins spécifiques, et on peut imaginer que les aliments soient un peu mieux adaptés à ces besoins spécifiques plutôt que d'être proposés pour l'ensemble de la population dont les besoins diffèrent. Et puis il y a un patrimoine génétique en chacun de nous qui aussi justifie peut-être pour certains aspects une alimentation un peu particulière. Nous n'avons pas tous les mêmes facteurs de risque. En tout cas, cet aliment fonctionnel ou cette alimentation fonctionnelle doit être conçu sur la base de connaissances scientifiques et pas relever du charlatanisme. Malheureusement, bien souvent, c'est le cas. Alors, pour essayer de mieux étudier les relations entre l'alimentation et la santé de l'homme, bien entendu, on dispose de modèles cellulaires, de modèles animaux. Mais au bout du compte, si on veut vraiment savoir ce qui se passe, il faut bien s'adresser à l'homme, après évidemment avoir pris toutes les précautions et donc avoir travaillé sur des modèles cellulaires et animaux. Et pour ça, pour voir un peu quelle est l'influence d'un aliment donné ou d'un type d'alimentation sur une fonction physiologique, biologique, il faut disposer de marqueurs. Et c'est toute la recherche en nutrition aujourd'hui, elle tient à la recherche de marqueurs. Alors, marqueurs de quoi? Des marqueurs d'exposition d'abord, parce que quand on s'adresse à une population de volontaires, par exemple, on doit vérifier quand même qu'ils ont bien suivi ce qu'on leur a demandé de faire, qu'ils ont bien consommé l'aliment qu'on leur a demandé de consommer. Donc il faut qu'on ait des marqueurs pour vérifier ça. Ce sont des marqueurs d'exposition aux composants ou aux aliments. Ensuite, on recherche donc l'influence de certains constituants de ces aliments sur des fonctions qui peuvent être moléculaires, cellulaires ou physiologiques. Et là encore, on a besoin de voir comment cette fonction réagit par rapport à l'aliment qui est consommé. Donc il nous faut des marqueurs de réponse, de fonction cible. Et puis si on veut aller plus loin, ça va être beaucoup plus difficile, on a besoin de marqueurs précoces de pathologie. Quand est-ce qu'on passe du normal à une dérégulation qui va conduire à la pathologie? Quand est-ce que, par exemple, on n'est plus capable de réagir correctement aux différentes agressions auxquelles nous sommes tous soumis tous les jours? Et là, on recherche des marqueurs précoces de pathologie. Qu'est-ce que ça peut être, ces marqueurs précoces? C'est, par exemple, l'épaississement de nos artères, l'apparition d'athéromes, le début d'apparition d'athéromes. Et ça peut se voir très facilement sur chacun d'entre nous, maintenant, avec des méthodes d'exploration qui ne sont pas du tout invasives. Et c'est un marqueur précoce d'une pathologie dont on sait qu'elle va se développer si le diamètre de nos artères commence à trop diminuer. Donc, nouvelle génération d'études d'intervention chez l'homme, chez des volontaires, en bonne santé, à partir d'hypothèses mécanistiques qu'on a bâties, donc je répète, sur des modèles cellulaires ou des modèles animaux. Donc, on ne va pas tout à fait au hasard, on ne fait courir aucun risque à ces volontaires, et on a quand même une idée de ce qu'on va rechercher à démontrer. On va utiliser donc des marqueurs quand on les aura trouvés, parce qu'on n'en a pas beaucoup encore. Et c'est la recherche fondamentale qui va nous permettre de trouver ces marqueurs. Plus on va comprendre des mécanismes comme ceux que j'ai expliqués quant aux relations entre la vitamine A et le développement embryonnaire, et plus on aura de chance d'émettre des hypothèses sur la relation entre l'alimentation et certaines fonctions. Et puis, on espère pouvoir baser donc sur ces résultats des recommandations pour le développement d'aliments fonctionnels. Je continue à utiliser ce terme, mais vous allez voir que à la fin de cette partie de l'exposé, je vais vous proposer autre chose. Alors, ces études, on les fait où? Eh bien, on les conduit, ces études sur des volontaires sains, dans des centres de recherche en nutrition humaine. Ici, c'est donc un des centres qui existent en France. Il en existe aujourd'hui 4. Celui-ci, c'est le centre de recherche en nutrition humaine de Clermont-Ferrand. C'est le seul qui soit spécifiquement dédié à ce type d'études. Il est construit sur un site hospitalier, donc avec toutes les précautions liées à certaines expériences chez des volontaires sains. Il y a une partie hôtelière, puisque on accueille des volontaires pendant des périodes qui peuvent être de plusieurs semaines, donc il faut que les conditions de vie soient agréables. Il y a toute une partie également gastronomique, il y a une cuisine très bien installée, il y a un chef qui essaye de préparer des plats agréables. Et puis, il y a évidemment toute une partie d'équipements scientifiques. C'est peut-être pas très lisible, mais j'ai essayé de scanner le mieux possible cette image. C'est un gros spectromètre de masse qu'on utilise quand on emploie des isotopes stables. Il est évident que pour faire ces études, on ne va pas utiliser des produits radioactifs, ce qu'on faisait dans le temps avec les animaux. Et maintenant, on utilise des isotopes stables pour mesurer un certain nombre de choses, mais qui nécessitent l'utilisation d'appareillages extrêmement lourds et sophistiqués, dont voici un exemplaire ici. C'est un appareillage qui est utilisé pour étudier le métabolisme des minéraux et des oligoéléments, le zinc, le cuivre, le fer, etc. Donc toujours chez l'homme. Alors, quelques résultats qu'on a obtenus dans ce centre de recherche en nutrition humaine de Clermont-Ferrand. Pour pas vous laisser sur votre faim, les autres sont situés à Nantes, à Lyon et en Méditerranée sur un triple site, Marseille, Montpellier et Nice. Donc voici un type de résultat qu'on a obtenu sur le centre de recherche de Clermont-Ferrand. C'est une mesure de la biodisponibilité, c'est-à-dire de la façon dont l'organisme peut utiliser la vitamine E, cette fois c'est une autre vitamine liposoluble, et on a comparé des individus âgés à de jeunes individus. Et la surface qui est sous cette courbe ici, vous voyez ici la quantité de vitamine E qu'on retrouve dans le sang de ces consommateurs après l'ingestion d'un repas renfermant de la vitamine E. Bien, vous voyez que la surface sous la courbe correspondant aux personnes âgées est nettement inférieure à la surface sous la courbe qui correspond à des jeunes sujets. Ça veut dire que quand on vieillit, on utilise moins bien, on a une capacité qui a diminué pour l'utilisation de la vitamine E. Ça veut dire aussi que nos besoins nutritionnels en vitamine E sont accrus et que sans doute les apports alimentaires doivent être augmentés. Ce sont des choses qu'on ignorait totalement avant de disposer de ces outils. Un autre exemple de résultat récent obtenu, ça concerne un antioxydant. On a dit l'importance, l'intérêt qu'on attachait aux antioxydants, donc protecteurs vis-à-vis des radicaux libres. Il s'agit ici de la quercétine, qui est un des constituants antioxydants importants des fruits et légumes. Eh bien, ici, à chaque série de barres, correspond un sujet différent. Ces sujets, on leur a fait tous consommer le même repas, la même quantité du même repas riche en produits végétaux, donc riche en quercétine. Et vous voyez, avant le repas sont les barres rouges, 3 heures après le repas les jaunes, les bleus, plus ou moins bleus. Et vous voyez la variabilité énorme qui existe entre ces différents sujets. Et donc la difficulté d'arriver à des conclusions lorsqu'on s'adresse à la population humaine avec une variabilité génétique considérable, la difficulté qu'il y a à tirer des conclusions universelles. Vous voyez qu'il y a des sujets qui absorbent très mal la quercétine et chez lesquels ce taux de quercétine n'augmente pratiquement pas, enfin ou très peu, par rapport à des sujets qui ont une biodisponibilité pour la quercétine très importante et chez lesquels donc cette quercétine, si elle est dotée de toutes les propriétés bénéfiques qu'on lui attribue, va pouvoir jouer un rôle bien plus important chez cette personne que chez celle-là. Donc des difficultés quand même à conclure dès qu'on s'adresse à une population humaine. La technologie peut jouer un rôle aussi dans les aliments de demain et dans la modification de ces aliments. On peut créer de nouveaux composants fonctionnels à partir de matières premières qui sont traditionnellement des aliments ou à partir de matières premières qu'on n'a pas l'habitude de consommer mais qui renferment des substances intéressantes. C'est comme ça que la pharmacologie s'est créée. La plupart de nos médicaments ont été conçus à partir de molécules qui existent dans la nature et qu'on a découvertes dans des plantes, souvent, le plus souvent dans les plantes, puis ensuite qu'on a un peu modifiées chimiquement. On peut chercher également à optimiser les composants intéressants dans les matières premières et dans ces aliments fonctionnels, de manière par exemple à augmenter la biodisponibilité par des moyens technologiques. Et on sait faire, on a un certain nombre d'exemples de ce qu'on peut faire. Et puis ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est quelque chose de très difficile mais qui mobilise beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle, et en particulier à l'INRA, c'est maîtriser la quantité des composants fonctionnels dans les matières premières. Je vais peut-être vous surprendre, mais on ne connaît pas bien la composition de nos aliments et la composition en particulier des fruits et légumes. Il existe dans ces fruits et légumes des centaines de molécules présentes en petites quantités, mais qui peuvent manifester des effets tout à fait favorables en matière de santé. Sur le plan analytique, on n'a même pas une connaissance suffisante de la variété de ces molécules. Mais on a encore moins de connaissance de la variabilité de présence de chacune de ces molécules. Et cette variabilité, elle va être liée à la variété, elle va être liée aux conditions agronomiques, aux conditions de culture, elle va être liée aux conditions climatiques, elle va être liée à la période de récolte, et tout ça on le connaît mal. Et quand on connaîtra mieux l'influence de ces différents facteurs, on pourra peut-être essayer de maîtriser la composition en l'optimisant, c'est-à-dire en essayant de préserver au maximum ces composés qui sont intéressants. Et ça suppose la collaboration de toute une série de scientifiques, à commencer par les agronomes, les généticiens, les améliorateurs des plantes, les technologues, les biologistes moléculaires, donc toute une et puis en définitive les nutritionnistes, donc une collaboration multidisciplinaire. Si l'industrie est intéressée par ces aliments fonctionnels, c'est bien qu'elle espère pouvoir utiliser des allégations, c'est-à-dire des messages pour faire la promotion de ces produits et des messages qui pourraient avoir un rapport avec la santé. Alors il est évident que du côté des scientifiques, on ne peut accepter des messages trompeurs et on doit absolument exiger que ces messages soient validés, démontrés scientifiquement, qu'ils soient clairs. Et ça, vous imaginez bien que ça va être une des difficultés majeures. Alors je reviens à mon petit schéma précédent sur lequel j'ai rajouté deux aspects qui sont liés à des types de messages promotionnels qu'on pourrait utiliser pour ce type d'aliments et qui sont discutés au plan international dans un organisme qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, le Codex Alimentarius, deux types d'allégations qui pourraient être utilisées. Celle qui correspond à l'amélioration d'une fonction. Là, on n'est pas directement en rapport avec la santé. Par exemple, les fibres de son de certains pains vont régulariser votre transit intestinal. On est en liaison avec plutôt le bien-être. Et peut-être des allégations liées à une réduction de risque de maladie. Et là, ça peut être tel aliment est riche en calcium biodisponible qui va vous permettre de ralentir l'apparition de l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de matière osseuse qui va se traduire à un certain stade par des fractures, et en particulier par des fractures du col du fémur. Donc c'est possible, ça doit être parfaitement régulé et contrôlé. C'est un exercice un peu à risque parce qu'il y a toujours un risque d'excès de la part de professionnels. Alors j'en arrive un peu à ce que moi je considère comme aliment ou alimentation fonctionnelle. Parce qu'il est très difficile d'obtenir un consensus dans le monde scientifique sur le fait qu'un aliment, et encore à plus forte raison un constituant alimentaire, est capable de réduire un risque de maladie ou d'améliorer le bien-être. Et qu'on se met beaucoup plus facilement d'accord sur le fait que c'est un type d'alimentation, et on parle beaucoup de l'alimentation méditerranéenne, c'est un type d'alimentation qui est plus capable de réduire les risques de maladie. Et donc j'aurais plutôt tendance à considérer que ce qu'on appelle aujourd'hui les aliments fonctionnels, c'est une alimentation fonctionnelle, et qu'on peut abandonner le terme de fonctionnel pour dire c'est une alimentation adaptée à nos besoins, nous qui vivons dans certaines conditions de vie qui ont formidablement évolué depuis un siècle. Et que notre alimentation doit être adaptée à ces besoins qui ont évolué, eux aussi, qui sont devenus plus spécifiques, enfin on peut les cerner plus spécifiquement par groupe de population, et que donc cette alimentation fonctionnelle, ça serait vraiment une alimentation adaptée à nos besoins. Et si on rêve un peu, comme le font souvent les scientifiques, eh bien on peut espérer une réduction des dépenses de santé si le manger sain entraîne une augmentation de l'espérance de vie accompagnée d'une amélioration de la qualité de vie. Il ne s'agit pas de vivre très vieux en mauvaise santé, mais si possible, de vivre très vieux en bonne santé. Toujours utopiste. Alors, il fallait bien que j'en vienne quand même à la sécurité alimentaire, parce que vous auriez été déçus si je ne vous avais pas parlé du deuxième défi auquel nous sommes confrontés, qui est assurer une alimentation plus sûre aux consommateurs de demain. Donc ça, c'est un défi pour le toxicologue. Il est clair que les inquiétudes des consommateurs sont réelles et qu'elles sont fortes. Alors, j'ai retenu ici une enquête parce qu'elle était faite au niveau européen, l'Eurobaromètre. C'est toute une série d'enquêtes qui sont réalisées au niveau européen, donc dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et qui permettent comme ça de voir à la fois les facteurs communs et puis les divergences entre pays. Et ça, c'est le résultat de l'enquête de 97. Il y a une enquête dont les résultats sont en cours de dépouillement, qui est plus récente, mais j'en dispose pas encore. La sécurité sanitaire des aliments était vraiment une préoccupation pour 68% des citoyens européens. Et ce qui était très curieux, c'est que c'était la France qui manifestait le plus de préoccupations en matière de sécurité sanitaire, déjà en 1997. Et globalement, sur l'ensemble de l'Europe, 35% des Européens pensaient que l'alimentation n'était pas sûre. 97. Ça, c'est un sondage réalisé au plan national. Il a été réalisé il y a juste un an, c'était juste avant le précédent salon de l'agriculture. C'était réalisé par des professionnels de l'alimentation animale. Et là, vous voyez que ça confirme quand même ce que donnaient les résultats d'enquête européenne. 89% des personnes interrogées exprimaient une crainte quant à la qualité des produits alimentaires. Évidemment, la préoccupation majeure à ce moment-là, c'était la vache folle. Mais aussi la rupture de la chaîne de froid. Du froid, bon, on voit que c'est une préoccupation qui est très actuelle avec les infections par l'hystéria, la qualité de l'eau, les OGM, j'avais dit que je n'en reparlerai plus, mais si, j'en parle un petit peu. Les traitements des cultures, il y avait le problème des boues dont on commençait, l'utilisation des boues en agriculture dont on commençait à parler. Et puis ce sondage dénotait une totale méconnaissance des conditions de production de nos aliments, puisque 80% des personnes interrogées s'imaginaient que les vaches ne mangeaient que de l'herbe. Mon Dieu. Alors, la sécurité sanitaire, elle revêt deux volets essentiels. Un volet qui est lié à la sécurité chimique, c'est-à-dire le risque lié à la présence de polluants, de contaminants, voire de constituants naturels des aliments, mais qui ont des potentialités toxiques. Et puis, la sécurité biologique, c'est toute l'hygiène alimentaire, donc liée aux micro-organismes, liée à des organismes un peu nouveaux qui nous posent bien des problèmes, comme ces fameuses protéines prions. Donc c'est à la fois biologique et chimique, on ne sait pas trop bien où le classer, mais enfin moi je le classerais plutôt dans la biologie. Donc deux types de préoccupations en matière de sécurité sanitaire qui demandent des compétences tout à fait différentes pour les aborder et pour essayer d'améliorer cette sécurité sanitaire dans chacun des domaines. Mais sur quoi je voulais insister, c'est sur la nécessité de gérer ces problèmes de sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire. Donc cette chaîne alimentaire, c'est l'ensemble des étapes qui séparent la production de matières premières de notre assiette. Et à chacune de ces étapes, donc la production par l'agriculture, soit par l'élevage, soit par l'agronomie, la transformation de ces matières premières, donc aujourd'hui c'est plus de 70%, c'est près de 80% des aliments que nous consommons qui sont passés au travers de transformations plus ou moins poussées, mais qui ne sont donc plus des matières premières non traitées. Et puis ces produits transformés par l'industrie vont être emballés, distribués, conservés, et enfin ils vont arriver dans nos foyers où là encore ils vont subir des traitements ménagers et culinaires. Si un seul de ces maillons est faible, ça aura des conséquences obligatoires sur la sécurité de ce que nous allons trouver dans notre assiette. Donc cette sécurité, elle doit être assurée tout au long de ces étapes de la chaîne alimentaire. Et à chacune de ces étapes, on peut être confronté à différents types de risques. Donc des risques qui sont liés que les matières premières soient d'origine animale ou végétale à la présence de contaminants, des résidus d'engrais, problème des nitrates, des résidus de pesticides, des résidus de métaux lourds, des substances antinutritionnelles ou toxiques qui sont souvent naturelles. Hein, la nature, parfois, fait des choses qui ne sont pas toujours très, très intéressantes. Pour les productions animales, là encore, des contaminants de l'environnement, et comme les métaux lourds, des résidus de médicaments vétérinaires, des résidus d'additifs de l'alimentation animale, des toxines sécrétées par des micro-organismes, dans les deux cas présents sur ces matières premières, et je pense en particulier pour les végétaux aux mycotoxines, qui sont pour la plupart des agents cancérogènes extrêmement puissants. Donc des risques au niveau de la production des matières premières, des risques au niveau de la transformation. Bon, j'insisterai pas sur l'hygiène des procédés, vous avez lu assez de choses dans ces derniers jours sur le problème d'hygiène des procédés, donc au cours de la transformation et de la préparation des aliments industriels. Des dégradations dues aux traitements technologiques qui sont souvent liées à des oxydations ou aux effets des traitements thermiques, de la température. Une attention qui doit être portée à la sécurité sanitaire des additifs alimentaires qui sont utilisés. Vous voyez sur les étiquettes la liste de ces additifs divers dont l'usage est obligatoire si vous voulez continuer à vous procurer toute cette variété d'aliments partout, sur tous les points de distribution en France, et si vous voulez conserver longtemps comme vous en avez pris l'habitude. Des problèmes d'une complexité extrême qui sont liés aux interactions entre l'emballage et l'aliment, et je vais y revenir rapidement tout à l'heure, liés aux pratiques culinaires et l'influence des modes de cuisson. Les fours à micro-ondes ont été mis sur le marché sans que personne ne se soit préoccupé des répercussions éventuelles, potentielles, de cette nouvelle technologie quant à la sécurité sanitaire des aliments. On s'était préoccupé de la dégradation possible, qui ne se produit pas d'ailleurs, des propriétés nutritionnelles, mais pas du tout de la production potentielle de composés toxiques. Et là encore, je vous rassure, maintenant que les recherches ont été réalisées, il n'y a pas de problème. Mais personne ne savait quand les micro-ondes ont été mis sur le marché de la restauration familiale. Donc, leçon aussi à retenir. Au bout de la chaîne, Nous avons dans notre assiette des aliments dans lesquels, ne rêvons pas, il y a un certain nombre de composés potentiellement toxiques. C'est inévitable. Mais dans le même temps, on a aussi dans nos aliments un certain nombre de facteurs de protection qui vont faire que ces composés toxiques ne vont pas pouvoir manifester toujours leur toxicité, et heureusement. Donc je ne vais pas m'arrêter sur toute cette liste où j'avais détaillé les différents types de constituants qu'on pouvait trouver dans les matières premières, simplement en m'arrêtant quand même sur ces problèmes de composés antinutritionnels et toxiques naturels. Hein. Vous voyez qu'il y a des facteurs antitrypsiques, par exemple, dans le soja, des glucosinolates dans les crucifères, dans à peu près tous les choux, des glycoalcaloïdes dans les pommes de terre, des hydrazines dans les champignons, des lectines dans les légumineuses, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ce qui est naturel n'est pas dépourvu de composés à potentialité toxique. L'important, c'est de maîtriser la concentration dans nos aliments de manière à ce que le risque soit tout à fait négligeable. Au cours des traitements, donc, j'ai parlé des additifs, il y a près de 400 molécules, donc il faut s'assurer de la sécurité. Des produits de dégradation thermique, des produits de dégradation, beaucoup de produits de dégradation des lipides, je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, donc, ce que j'ai évoqué déjà, les micro-ondes, mais il y a aussi une technologie qui se développe, qui pourrait se développer dans l'industrie alimentaire, qui est l'utilisation des hautes pressions, de très très hautes pressions, pour se substituer aux effets de la température et donc pour détruire des micro-organismes. Là encore, on a besoin d'évaluer les risques qui sont a priori peu élevés, mais qui pourraient être liés à cette nouvelle technologie. Puis il y a de nouvelles technologies de chauffage de nos aliments sur lesquelles il faut aussi s'arrêter. Alors c'est pas du rêve, hein. Là je vous donne simplement un exemple de ce qu'on peut retrouver dans des échantillons de lait humain, et on retrouve donc des acides gras qui ont été, dont la structure chimique a été modifiée par le traitement technologique thermique, et donc ça veut dire, ça c'est l'indice d'une consommation par ces femmes allaitantes de ces composés de dégradation des lipides, et donc avec une grande variabilité aussi, on s'aperçoit que près de 50% d'un des acides gras qui est particulièrement sensible à la température peut être modifié au cours des traitements thermiques et donc passer dans le lait des femmes allaitantes. Alors les risques liés à l'emballage, au stockage et à la distribution, l'emballage plastique devient quelque chose d'une complexité extrême. C'est encore plus complexe aujourd'hui que nous sommes dans l'obligation, que l'industrie est dans l'obligation de recycler des matériaux plastiques. Et de recycler des matériaux plastiques dans lesquels tout le monde ignore ce qui a pu se passer. Et au contact de quels produits toxiques, y compris les plus toxiques, ces emballages ont pu être exposés. Et donc ces emballages plastiques sont multicouches, et donc on met les emballages recyclés à l'extérieur, sur la couche externe, avec des colles pour coller ces différentes couches, avec des additifs multiples, c'est d'une complexité formidable, et l'interaction entre l'aliment, l'emballage et le monde extérieur est quelque chose, pour le chimiste et pour l'analyste, quelque chose de très difficile, là aussi c'est un défi pour l'analyste. Parce qu'il peut passer des constituants volatiles de l'environnement au travers de l'emballage qui vont se retrouver dans les aliments. Ces emballages sont imprimés, il y a des vernis, il y a des encres d'impression qui peuvent également traverser l'emballage et se retrouver dans l'aliment. Et puis, mais ça c'est des conséquences organoleptiques, l'aliment peut perdre de son arôme par passage de composés volatiles, là encore, de l'aliment au travers de l'emballage vers l'environnement. Un petit mot maintenant des aspects quand même, des aspects positifs, parce que quand on parle de sécurité sanitaire, je vous ai dit que dans notre assiette, on avait à la fois des composés potentiellement dangereux et puis des composés protecteurs. J'ai choisi d'illustrer ça par l'exemple du cancer. Le développement du cancer, en tout cas la cancérogenèse due à des substances chimiques, ce cancer se développe en plusieurs étapes. Une première étape dite d'initiation, où là on va avoir un agent cancérogène, qui va porter atteinte au génome de la cellule, qui va agir de façon très rapide et qui va transformer une cellule. Alors, heureusement, nous avons de nombreux mécanismes de réparation de nos cellules, mais de temps en temps, ces mécanismes ne fonctionnent pas et nous avons une cellule qui est potentiellement un cancer. Hein. Une tumeur, c'est une seule cellule au départ. Mais heureusement pour nous, donc, cette cellule va très souvent, le plus souvent, rester contrôlée par les cellules environnantes qui sont normales et donc ne pas se multiplier. Mais sous l'influence de composés promoteurs, de temps en temps, cette cellule va commencer à se multiplier et c'est là que les choses vont commencer à devenir graves. Ensuite, une phase de progression va arriver et enfin, après la multiplication de ces cellules, apparition de métastases, et là, c'est là où vraiment c'est la dernière étape et la plus difficile. Mais au cours de toutes ces étapes qui conduisent d'un composé cancérogène à une tumeur, et une tumeur maligne, l'alimentation est capable d'agir, est capable de protéger, ou au contraire d'accélérer le processus. Et à chaque étape, pratiquement, à l'étape d'interaction entre xénobiotiques, ça veut dire molécule étrangère à l'organisme, c'est la molécule qui est dangereuse, bon, qui va pouvoir se transformer dans notre organisme et finalement porter atteinte à l'ADN, hein, c'est ça l'événement d'initiation. Eh bien, on a un certain nombre de constituants de notre alimentation, soit qui peuvent accélérer cette étape, qui sans elle, sans cette étape, il n'y aurait pas d'apparition de risque de tumeur, mais d'autres constituants de notre alimentation sont capables d'inhiber cette étape-là. D'autres composés de notre alimentation sont capables de jouer un rôle au cours de la promotion et de la progression. Donc tout ceci est en cours d'étude et vraiment, je ne dirais pas chaque jour, mais chaque mois, on met en évidence ou des effets négatifs ou des effets positifs de l'alimentation. Donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et ça demande de progresser. Alors, le toxicologue, il est confronté à des difficultés nouvelles, permanentes, et là j'ai simplement, je ne développerai pas ça non plus. Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'évaluation de la sécurité des OGM. J'en reparle encore, mais au cours de la discussion, je suis prêt à répondre à vos questions sur ce point. Et ça, c'est le problème de la vache folle, c'est le problème du prion. Simplement une image pour vous montrer ce que c'est que ce prion anormal qui est, selon toute vraisemblance, même si cette théorie est encore contestée par certains scientifiques, est la cause ou au moins l'un des éléments responsables de l'apparition de la maladie de la vache folle et également de l'apparition de certaines formes de maladie de Creutzfeldt-Jakob, de nouvelles variantes, cette fois chez l'homme. Donc ça sont des problèmes nouveaux auxquels nous nous attendions pas d'être confrontés il y a 10 ans et qui nous posent vraiment des problèmes de connaissances fondamentales fantastiques, mais quelqu'un de bien plus compétent que moi parlera de tout ça, le professeur Dominique Dormont, dans une présentation ultérieure. Quelques conclusions en matière de sécurité. Pour la caractérisation des risques, qui est le travail, la responsabilité du scientifique, mais je pense que vous avez compris que compte tenu de la diversité des problèmes, de la complexité de certains d'entre eux, ces questions ne pouvaient être abordées que par une collaboration entre scientifiques de compétences complémentaires, donc de scientifiques, une approche pluridisciplinaire, avec donc des chimistes, des physico-chimistes, des toxicologues, des épidémiologistes, donc des médecins épidémiologistes, des biochimistes, des biologistes cellulaires, vétérinaires et moléculaires, des agronomes, des statisticiens. Et on essaye de modéliser de plus en plus les interactions pour éviter de multiplier les expérimentations en laboratoire. Alors, ce dont on a parlé beaucoup aussi, c'est l'indépendance de l'expertise. Bon, là encore, je suis prêt au cours de la discussion à développer un peu cet aspect-là. Mais en tout cas, l'indépendance, la transparence de l'expertise, c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour le scientifique. En matière de gestion des risques, alors là, c'est plus le scientifique qui parle, mais c'est le politique, c'est le décideur politique. Il faut organiser le débat public. Et là, je reviens sur les OGM, que je ne développerai pas non plus, mais il y a un problème d'organisation du débat public, et il y en a eu un dans le cas des OGM. Pour gérer la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire, il faut que l'ensemble des acteurs, puisque chaque maillon faible de la chaîne va avoir des conséquences, il faut que chaque acteur de cette chaîne alimentaire soit responsabilisé. Il faut enfin, ça c'est peut-être le problème de la vache folle que je serais prêt à aborder aussi, du soi-disant désaccord fondamental entre experts français et experts européens, il faut que tout ça soit harmonisé au plan international. Il faut que la culture du secret, à laquelle, en particulier dans certains domaines comme celui du nucléaire, hein, vous savez que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté évidemment aux frontières de l'Hexagone parce que sans doute il n'y avait plus le vent, avait justement cessé à ce moment-là. Il faut expliquer, il faut justifier comment on a caractérisé les risques, il faut justifier pourquoi on a pris un certain nombre de mesures de gestion. Il faut que les responsabilités soient clairement partagées. Le scientifique a pour mission d'essayer d'évaluer le risque donc, et de donner des priorités en termes de niveau de risque. Et le politique a pour responsabilité de prendre des mesures de gestion. Et chacun doit rester à sa place. Et le politique doit éviter d'essayer de faire porter aux scientifiques le chapeau de la prise de décision. Le scientifique n'a aucune légitimité pour prendre des décisions. C'est l'élu, donc c'est le politique qui a la légitimité. Mais parfois, il y a confusion des genres. La période actuelle est propice à la démonstration de cette confusion des genres. Conclusion générale. Alors, est-ce que j'ai traité le sujet? Je suis pas sûr. Enfin, je vais essayer d'y revenir un peu. L'alimentation de demain, mais je crois qu'elle sera ce que vous en déciderez. Elle peut être, j'espère l'avoir montré un peu, elle peut être plus saine et plus sûre. Elle peut être mieux adaptée à nos modes de vie et aux particularités de chaque groupe de consommateurs. Un mot sur le patrimoine génétique. On parle de nutrigénétique maintenant. L'étude du polymorphisme génétique de l'espèce humaine nous montre à l'évidence que vis-à-vis de certains types de maladies, certains groupes de population, en fonction de leur patrimoine génétique, sont plus à risque que d'autres. Et qu'il n'est peut-être pas inutile, alors ça va être une arme extrêmement difficile à manipuler pour des raisons d'éthique, pour des raisons sociétales, mais il serait peut-être utile qu'on puisse prévenir ces groupes de population qu'ils courent plus que d'autres des risques vis-à-vis de certains types d'aliments ou de certains types d'alimentation. Donc on peut rêver un peu et qu'on peut penser que l'alimentation pourrait améliorer le bien-être, diminuer nos facteurs de risque, ralentir l'apparition des pathologies liées au vieillissement, qui sont donc essentiellement maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, l'ostéoporose, la cataracte. On dit que nos conditions de vie sont dramatiques et que ces pathologies augmentent, mais ces pathologies, elles sont liées au vieillissement, donc il ne faut peut-être pas trop s'étonner de voir leur incidence augmenter quand notre espérance de vie augmente aussi de façon très importante. Mais pour que tous ces objectifs tout à fait positifs soient atteints, je crois que ça suppose, c'est pour ça que j'ai dit que notre alimentation de demain, elle sera ce que nous voudrons qu'elle soit, ça suppose quand même des efforts et des réflexions. En dehors des aspects recherche, que je crois assez largement développés, je pense qu'il faut qu'une réflexion soit engagée par le citoyen consommateur sur la part de son budget qu'il consacre à ses dépenses d'alimentation. Cette part ne fait que baisser. Je crois qu'on a atteint un niveau au-delà duquel on ne peut plus aller impunément. Demander, et c'est ce que le consommateur demande, parce que si le distributeur insiste auprès des producteurs pour que les prix de l'alimentation baissent, c'est bien parce qu'il y a une demande. On ne peut plus demander de réduire les prix de l'alimentation sans courir des risques en matière de sécurité sanitaire. Ça conduit les producteurs à réduire leurs coûts, donc à utiliser des sous-produits et à prendre des risques. Et on a eu des exemples, l'exemple de la dioxine, l'exemple des boues. Il faut, si on attache de l'importance à son alimentation, se dire qu'il faut y mettre un certain prix. Donc je crois que ça, c'est un des éléments importants. Il faut aussi savoir se conduire par rapport à son alimentation. Et donc il y a un effort absolument indispensable de la part des pouvoirs publics en matière d'éducation, et ça commence à l'école maternelle, à l'école élémentaire, en matière de formation à la nutrition, mais aussi à l'hygiène. On a oublié beaucoup de règles d'hygiène élémentaire. On en a beaucoup parlé ces temps-ci. Il faut que tous les acteurs de la chaîne alimentaire fassent un effort d'information. Et je crois qu'on en a quand même un exemple criant depuis quelques mois. Il faudrait, moi je le souhaite en tout cas personnellement, et je crois que tous mes collègues scientifiques le souhaitent, qu'on arrête de rechercher le sensationnel et qu'on abandonne cette communication politico-médiatique. Ces affaires sont trop sérieuses pour qu'on puisse se comporter comme ça. Enfin, il faut que chacun d'entre nous s'interroge sur son attitude, ses comportements face à l'alimentation. Fasse un tout petit effort, non pas qu'il soit en permanence avec sa machine à calculer pour savoir si ce qu'il vient de manger correspond bien à ses besoins, mais simplement qu'il s'interroge de temps en temps sur son comportement alimentaire et que donc il n'essaye pas de tout attendre de son alimentation. Donc la qualité sanitaire, la sécurité sanitaire, sans que lui-même fasse un minimum d'efforts. Donc voilà le message final que je voulais vous transmettre et je vous remercie de votre attention.
Très bien, nous allons passer aux questions. 20 minutes pour poser des questions, si possible brèves, pour qu'il y ait plus de questions. Donc, madame.
Merci. On m'entend bien, oui. Alors, je voulais vous remercier pour la qualité. Pour la qualité de votre conférence et savoir d'une part, j'ai quelques petites questions, hein, si on peut retrouver votre conférence dans un de vos livres. Première question. Deuxièmement, savoir que j'ai étudié la naturopathie et au cours de mes observations, j'ai effectivement perçu l'influence de l'aliment sur le comportement physique et psychique. Et vous me dévoilez l'existence de ces centres qui étudient justement ces influences. Est-ce qu'on peut retrouver des études au niveau du public? Deuxième question. Troisième question, vous avez parlé de 400 molécules dans les additifs alimentaires. Moi, je suis attentive à la composition, je n'ai pas perçu 400. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des molécules de tolérance qui n'apparaîtraient pas dans la composition?
Bien, la première question, malheureusement, je n'ai pas... J'ai jamais écrit un article d'ensemble sur ce que je viens de présenter. Bon, j'écris des choses sur des sujets plus spécifiques, sur les OGM, sur la vache folle, qui sont pas forcément toujours accessibles. Et puis, j'écris pas beaucoup parce que malheureusement, j'ai pas le temps, j'ai trop d'activités et que j'ai malheureusement pas beaucoup le temps d'écrire. Je dois écrire un bouquin sur la sécurité alimentaire. Il devrait déjà être écrit depuis près d'un an. J'espère que je vais arriver à le publier dans le courant de cette année. Donc ça, c'est la première question. La seconde, bon, dans ces centres de recherche en nutrition humaine, ce sont des chercheurs. Et donc, on peut retrouver les résultats de leurs recherches dans la littérature scientifique, qui est quand même pas si facile que ça d'accès, même si maintenant, grâce à Internet, on peut trouver ces revues. Mais ce sont des résultats qui sont pour le moment, parce que ces centres ont été créés de relativement récemment, donc ce sont pour le moment... des résultats qui sont publiés sous forme d'articles scientifiques. Malgré tout, vous pouvez vous procurer dans certains d'entre eux les rapports d'activité. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible au public. Alors, ça sort avec un petit peu de retard. Par exemple, pour le centre que j'ai évoqué de Clermont-Ferrand, le rapport de 99 n'est pas encore sorti. Il publie un rapport d'activité tous les deux ans. Et il y a seulement le rapport d'activité de 97 qui est disponible. Mais 99 va venir. Donc là, c'est beaucoup plus accessible quand même à un public déjà averti. Puis j'ai oublié déjà la dernière question.
C'était à savoir sur les 400 molécules.
Alors, non, on vous cache rien, mais quand je dis 400 molécules, parce que dans les E quelque chose, ça recouvre des familles. Hein, et donc dans une même famille, il y a plusieurs molécules. Mais ça peut parfois être, enfin c'est souvent des sels d'acide, alors avec les différents sels, et on peut avoir dans la même famille 10 molécules différentes. Mais 400, c'est rien. Hein. J'ai pas évoqué d'autres problèmes qui nous posent bien des difficultés. Les arômes qu'on ajoute dans les aliments. Là, c'est entre 2000 et 3000 molécules. Les constituants des emballages que j'ai évoqués, c'est près de 4000 molécules. Et là, on a des difficultés considérables. On ne peut pas, même si on utilisait toutes les possibilités existant au monde pour faire des expérimentations pour juger de la sécurité sanitaire, on ne peut pas développer ça. Et donc, on est obligé d'avoir une approche qui est liée au niveau d'exposition. Et il y a tout un travail qui se réalise actuellement pour savoir au-dessous de quel seuil, parce que notre exposition à ces molécules est extrêmement faible. Et à partir en dessous de quel seuil, finalement, il ne faut pas essayer de consacrer les moyens de la recherche qui vaut mieux réserver aux problèmes qui nous apparaissent comme des problèmes beaucoup plus importants en matière de santé. Donc laissons tomber, supposons sur les 7000 molécules, et c'est vraisemblablement ce qui va se passer, laissons-en tomber Donc hein, 4000 plus 3000, laissons-en tomber 6000 et intéressons-nous aux 1000 qui, a priori, en raison de la structure chimique, en raison de ce qu'on sait de ces molécules, nous semblent poser peut-être le plus de problèmes, et puis peut-être pas 1000, mais commençons d'abord par les 10 ou 15 qui vraiment nous inquiètent. Hein, c'est ça l'approche. Il faut faire avec les moyens dont on dispose et avec les moyens que le citoyen est prêt à consacrer à la recherche dans ces domaines. Hein, si on vous demande de consacrer 80% de vos impôts à des recherches dans ces domaines, je ne suis pas sûr que vous êtes d'accord. Mais peut-être, hein, mais bon, ça c'est un débat citoyen. Les chercheurs dans mon domaine seraient tout à fait contents de voir les fonds consacrés à ces travaux augmenter. Mais enfin, bon, il y a d'autres choses très intéressantes aussi.
Si je peux me permettre deux petites précisions encore, à savoir qu'on parle souvent de ces régimes des Grecs ou des Méditerranéens. Je pense qu'on omet un facteur important, c'est l'influence du climat. Et que finalement, lorsque ces milieux-là ont des climats très particuliers, et que c'est peut-être difficile dans nos climats à nous. D'autre part, en ce qui concerne la pathologie des personnes âgées, moi je vis une expérience avec mon père qui a 87 ans, et je suis sidérée de l'influence d'une alimentation équilibrée sur la pathologie qui n'existe pas finalement, quel que soit l'âge.
Voilà, oui, mais tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord.
Je voulais vous demander, est-ce que c'est toujours commode de séparer ce qui est bénéfique et ce qui est nocif? Je prends deux exemples. Là, vous avez montré un schéma qui parle de la vitamine E en fonction de l'âge. La vitamine E est diminuée donc chez le sujet âgé d'après ce schéma. Et est-ce que c'est un effet forcément négatif, ou est-ce que ça peut être un effet positif parce que finalement ce serait une réaction contre quelque chose qui se passe chez le sujet âgé. D'autre part, vous avez présenté un antioxydant dont je n'ai pas retenu le nom. Cet antioxydant, il peut être bénéfique en tant qu'antioxydant, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer comme négatif sur un autre terrain?
Oui, oui, bon, je pense qu'il s'agit de deux questions intéressantes. Pour la vitamine E, j'aurais quand même tendance à penser qu'une biodisponibilité inférieure, un passage dans notre organisme diminué, peut quand même avoir des conséquences. Enfin, si on croit à la théorie antioxydante, on peut penser que si on a moins de vitamine E disponible, les radicaux libres vont plus facilement pouvoir exercer leurs méfaits. Donc là, dans ce cas-là, j'aurais quand même tendance à penser que c'est pas très favorable. Mais effet positif, effet négatif, je vais prendre un exemple qui touche toujours une vitamine, enfin qui touche le bêta-carotène, donc le bêta-carotène qui est le précurseur de la vitamine A. Et c'est le bêta-carotène qu'on trouve dans les fruits et légumes, et c'est le bêta-carotène qui est en partie responsable de la couleur, bon, entre le jaune et enfin les caroténoïdes en général. Donc on pensait que ce bêta-carotène, donc, dont la quantité ingérée est importante si on mange beaucoup de fruits et légumes, était un élément protecteur, et en particulier protecteur vis-à-vis du cancer du poumon, parce que ce cancer du poumon est en partie dû à l'effet de ces radicaux libres, que ce soit le tabac ou d'autres types de contaminants et de polluants. Et donc il y a eu dans le monde deux grandes études d'intervention sur des nombre de sujets très importants, de 18 à 25 000, une étude en Finlande et une étude aux États-Unis, au cours desquelles on a utilisé des pilules. Et le résultat a été contraire aux prévisions, c'est qu'au lieu de protéger les fumeurs contre le cancer du poumon, on a assisté à une augmentation de l'incidence de cancer du poumon sous l'effet de l'administration de bêta-carotène. Donc, il y a un équilibre à respecter, il y a tout un tas d'interactions que j'ai évoquées au début de mon intervention dans les aliments qu'on ignore, et donc il faut être quand même extrêmement prudent, et que si on intervient, il faut le faire dans des limites très physiologiques et pas rentrer dans le monde de la pharmacologie. Donc pas chercher des effets trop brutaux, trop importants, mais jouer la mesure toujours. Et quand on joue la mesure, c'est très difficile de démontrer qu'on a un effet. Donc on est face à des expérimentations délicates.
Une question par ici.
Il y a de plus en plus d'allergies alimentaires. Est-ce que vous pensez trouver une solution? Et est-ce que l'herbe deviendrait plus chère que la farine animale?
Ah. Alors l'allergie. Alors l'allergie, c'est vrai, enfin, c'est vrai. C'est moins vrai quand même que ce qu'on peut penser, hein, que sa fréquence augmente. C'est vrai. C'est vrai, mais il faut aussi prendre en compte le fait que la détection est beaucoup plus fine aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas croire non plus les déclarations. Hein, quand on essaye de vérifier les déclarations, il y a eu deux études de fait, une en Angleterre et une en Suède. On prend une population et on trouve souvent 20% de cette population qui déclare être allergique à un constituant alimentaire. Je parle de l'allergie alimentaire, hein, strictement. Et puis on fait les tests et on s'aperçoit que ce n'est pas 20% mais que c'est 2% de cette population qui est réellement allergique. Donc il y a aussi des réactions qui ne sont pas du tout des réactions d'allergie, mais qui sont des réactions de sensibilisation, des réactions aux aliments, mais qui n'ont rien à voir avec l'allergie. L'allergie, c'est un problème sérieux. C'est un problème tellement sérieux que, dans un certain nombre de cas, elle met la vie du consommateur en danger. Mais, je vais vous faire un aveu, il ne faut peut-être pas le répéter, mais dans une étude européenne récente, qui a été réalisée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, on s'est aperçu qu'à part deux pays dans l'Union européenne, aucun des autres pays ne disposait de dispositifs de recueil des informations concernant ces allergies très graves. Alors, aucune information. Pas en France, pas dans la plupart des pays. Il n'y a que deux pays où on a des informations fiables, qui sont la Suède et l'Irlande. Pour le reste, on ignore tout. Hein. On parle de choc dans le recueil des accidents graves. On parle de choc anaphylactique. Et c'est jamais, pratiquement jamais relié à la cause de ce choc anaphylactique, aliment ou autre chose, et bien moins encore à un aliment donné. Donc on n'a aucune information fiable dans ce domaine. Ceci étant, je pense qu'effectivement, le pourcentage d'allergies croît, et en particulier chez les enfants. Et c'est sans doute à cause de l'introduction d'aliments de plus en plus nombreux et d'allergies croisées. Est-ce qu'on s'est posé la question, je reviens un peu aux OGM, là, parce que j'ai fini, j'avais dit que j'en parlerais pas dans mon exposé, mais on se pose la question de l'allergie liée aux OGM. Est-ce qu'on s'est posé la question de l'allergie qui pouvait être liée aux kiwis quand on les a introduits? Ce n'était pas de consommation courante en France il y a 20 ans ou 30 ans. Or, les kiwis sont responsables d'allergies. Est-ce qu'on s'est posé la question plus récemment lorsqu'on s'est mis à consommer beaucoup plus largement des litchis? Non, les litchis sont responsables d'allergies. Donc on a une variété d'aliments qui nous est proposée, qui sont pour beaucoup d'entre eux, et pour certains d'entre nous seulement, heureusement, pour des petits groupes, qui sont des allergènes potentiels. Et donc plus on a de variétés d'aliments, et plus des individus ou des groupes d'individus vont développer une allergie. Et le drame en matière d'allergie, c'est qu'il y a souvent des allergies croisées, et que l'allergie à un certain type aussi de pollen peut aussi se manifester vis-à-vis d'un constituant alimentaire, parce que les allergènes sont chimiquement très proches. Et donc ça, c'est un problème contre lequel on va avoir énormément de difficultés à lutter, parce qu'on n'a pas de méthode fiable, validée, pour détecter le risque, le potentiel allergène pour l'homme de quelque aliment que ce soit. On n'a pas de modèle animal qui soit vraiment validé, qui soit vraiment informatif, et donc on a là aussi une difficulté. Il y a de très nombreux programmes de recherche qui se développent actuellement. On progresse dans les modèles animaux, mais c'est un mécanisme d'allergie alimentaire, donc qui touche au système immunitaire. C'est un mécanisme extrêmement complexe, avec de très très nombreuses étapes, et pour arriver à mettre au point un modèle animal qui soit vraiment informatif en termes de risque pour l'homme, c'est très très difficile. Et vous voyez, je perds la mémoire parce que j'ai aussi oublié votre deuxième question. Alors l'herbe, bon, mais là on en vient un petit peu à ce que j'ai dit sur le coût de l'alimentation. Alors, où on reste dans un système d'agriculture intensive tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et là, c'est pas avec l'herbe qu'on va remplacer les farines, c'est avec le tourteau de soja. Parce qu'avec l'herbe, on n'y arrivera pas. Ou bien, on passe de cette agriculture intensive, non pas à l'agriculture extensive, parce qu'on n'a pas les plaines de la pampa argentine, mais à quelque chose d'un peu plus raisonné, auquel cas on pourra diminuer le recours à ce type d'alimentation qui permet des performances importantes. Pourquoi est-ce qu'on utilise des farines? Pourquoi est-ce que ce sont les vaches laitières qui ont été les plus atteintes par la maladie de la vache folle en Grande-Bretagne, mais aussi en France? Parce qu'on fait produire à ces vaches des quantités faramineuses de lait, qu'on les épuise et que elles ne peuvent pas produire ces quantités de lait si on ne leur apporte pas des compléments alimentaires extrêmement denses, extrêmement riches en protéines. Donc si on veut continuer dans le système où on n'utilise plus de farine et on utilise des tourteaux de soja, mais il n'y a pas d'alternative. Si on n'utilise plus les farines, qu'en fait-on? Ces farines, elles correspondent à l'utilisation de plusieurs centaines, pour la France, par an, plusieurs centaines de milliers de tonnes de résidus animaux. Donc, si on n'utilise pas ces farines, qu'en fait-on? Comment les détruit-on? Et a-t-on les moyens de s'assurer que cette destruction ne va pas provoquer d'autres problèmes d'un autre type? Mais je pense en particulier, puisqu'on va les détruire par incinération, à la production de dioxines dans l'environnement, si on n'est pas sûr que toutes les unités de destruction seront parfaitement équipées pour éviter la production de dioxines. Donc, ce sont des problèmes qui ne sont pas simples. Mais pour revenir à l'herbe, essayons de changer. Alors on parle d'agriculture raisonnée aujourd'hui. Je crois qu'on ne va pas continuer dans ce système de production intensive. On va revenir à quelque chose d'un peu plus réfléchi. Mais on ne reviendra pas totalement à l'herbe. Et puis pour revenir totalement à l'herbe aussi, il faudrait qu'il y ait encore des agriculteurs sur le terrain. Comment est-ce qu'on va les faire revenir? Ce n'est pas si facile. Bon, ça, ce n'est pas un problème de scientifique, c'est un problème politique, de société, mais il y a beaucoup de difficultés. Alors, on ne reviendra pas à l'élevage du début du siècle. J'espère personnellement qu'on reviendra à quelque chose de plus humain et que donc on utilisera moins de farines animales, mais qu'on se trouvera confronté aux problèmes techniques de destruction de ces produits.
Deux dernières questions, une ici et une là ensuite.
Ah, oui. Je voulais vous faire parler juste de ça, des OGM, justement, des nourritures, des farines animales. Moi, je pense qu'on joue un peu avec le feu et qu'on se prend pour des apprentis sorciers. Je pense que la vocation de la France, c'est de faire une agriculture qui a fait sa réputation aussi, et qu'on pourrait se retrouver là-dessus, ne serait-ce qu'en nutritionnant que les classes aisées américaines, par exemple. Je veux dire, les OGM, ça me fait peur, et je pense que... Est-ce qu'il est normal qu'on retrouve maintenant dans notre assiette de l'alimentation des animaux qui ont été nourris par farine animale où il y a eu justement des OGM? Je pense qu'on nous cache quelque chose et qu'il faudrait un contrôle simple et efficace de manière à ce que le consommateur sache s'il fait le cobaye ou s'il mange quelque chose de naturel.
Alors je crois qu'il faut commencer par l'information. Donc en matière d'OGM, il est clair que l'étiquetage est un droit absolu du consommateur qui doit avoir la liberté de choisir. Et qui doit avoir la liberté de choisir des produits garantis sans OGM, et que cette garantie soit réelle, ou de choisir des produits OGM, parce que personne ne peut dire que dans 10 ans, il n'y a pas une catégorie de consommateurs qui recherchera des produits OGM. C'est pas garanti. En matière de risque, alors ça, c'est un peu théorique ce que je vais dire, mais quand même, je baigne tous les jours dans ces choses-là. Des politiques responsables ne peuvent pas accepter de mettre sur le marché des produits dangereux pour la santé publique. Alors, il y a bien des faiblesses dans les systèmes. Mais à partir du moment où on met sur le marché un produit, c'est qu'on a pris le maximum d'assurance quant au risque en matière de santé. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les OGM. Je ne suis pas sûr qu'ils soient plus graves, en tout cas avec certains, que ceux qu'on peut rencontrer avec des aliments plus traditionnels. Ce que j'ai observé, moi, au cours de deux années de discussion avec des représentants de toutes les catégories du corps social, c'est qu'il m'a semblé, toujours on mettait en avant les risques pour la santé ou les risques pour l'environnement. Et que quand on poursuivait la discussion avec ses interlocuteurs, on s'apercevait que leur vraie question, qu'ils n'avaient sans doute pas voulu poser d'emblée, il y avait une certaine pudeur, c'était une question politique, c'était une question de société. C'est qu'est-ce qu'on nous prépare comme type de société avec ces OGM ? Qu'est-ce qu'on nous prépare comme relation entre pays du Nord et pays du Sud ? Qu'est-ce qu'on nous prépare comme relation entre le producteur agricole et des multinationales ? Et que c'était ça le fond du débat. Et que ça, c'est un débat politique qui a peut-être pas été, enfin, en tout cas, qui n'a pas été posé dès le départ. Mais que, en fait, la peur, en tout cas en matière de santé, n'est peut-être pas aussi forte que ça. Parce que quand on rentre dans le détail, on n'aura malheureusement pas le temps d'y rentrer ce soir, sur chacun des aspects, quand on essaye d'expliquer les efforts, on a l'impression que les scientifiques ne se sont pas préoccupés du tout de l'évaluation du risque potentiel lié aux OGM. Ça fait près de 15 ans que je siège dans la commission de génie biomoléculaire. La France a été un des premiers pays à mettre en place une commission de ce type. Elle a été beaucoup critiquée, il y a des critiques qui sont justifiées. Mais quand même, ça fait donc près de... C'était début 86 que cette commission a été créée. C'est donc il y a près de 15 ans qu'on a commencé à se préoccuper de ces problèmes. Et certains disent qu'on n'a rien fait, c'est pas vrai. On n'a pas la réponse à toutes les questions, c'est clair. Mais on a quand même un certain nombre de méthodes qui nous permettent de nous assurer qu'au moins, on ne fait pas courir des risques majeurs. Alors, assurer qu'il n'y a pas de risque faible... comparable, je répète, au risque que nous font courir d'autres types d'aliments, ça je ne le prétendrai pas. Mais les risques majeurs, je crois qu'on peut les exclure. Alors, par ailleurs, c'est vrai que s'il y a un docteur Folamour qui veut utiliser les méthodes des génies génétiques pour produire des aliments extrêmement dangereux et des poisons violents, il n'y a aucun problème, il pourra le faire. Donc ces OGM, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Et c'est vrai que quand on nous raconte que ces OGM vont permettre de régler les problèmes de la faim dans le monde, il y a de quoi rigoler quand il s'agit du discours des multinationales. Mais il ne faut pas rigoler trop, parce que ça pourrait quand même être un des éléments qui permettent au moins d'améliorer cette situation, à condition que ça soit utilisé dans le sens de l'intérêt des populations des pays en développement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on a des exemples quand même de produits qui ont été, d'OGM qui ont été développés par des organisations non gouvernementales et qui apportent un plus évident à ces populations. Et je pense en particulier, on revient sur la vitamine A et sur le bêta-carotène, à un riz enrichi en bêta-carotène par génie génétique et qui permet de lutter contre les carences en vitamine A de certaines populations qui sont responsables de centaines de milliers de cécité de par le monde. Il y a aussi un riz qui est enrichi en fer, qui permet de lutter contre l'anémie qui sévit dans beaucoup de ces pays. Donc, on pourrait utiliser ces méthodes, ces technologies extrêmement puissantes, à des fins qui soient, à l'évidence, positives, utiles pour le consommateur et pour différents types de consommateurs. Mais on peut en même temps aller piller les ressources génétiques des pays en développement, parce qu'ils ont une variabilité génétique, un patrimoine génétique formidable, aller chercher un certain nombre de gènes intéressants, les breveter, et donc avoir dépossédé ces pays de leur richesse génétique. Donc on peut faire le pire et le meilleur avec ces OGM. Et donc ça vaut la peine d'un débat de société, mais très honnêtement, enfin personnellement, je ne pense pas que le problème de santé soit le problème majeur quand on parle d'OGM.
Plaît.
Très court, s'il vous plaît.
Oui, je vais faire très très court. Monsieur, votre cours est parfait, et ce que j'ai surtout admiré dans votre cours, c'est votre honnêteté de scientifique. Alors, dans votre honnêteté de scientifique, vous allez me dire pourquoi la vitamine C, vous n'en avez pas parlé, vous avez parlé de la vitamine E et de la vitamine A. La vitamine E, anti-cancer, pourquoi cette vitamine C que Pauline et Cameron, des médecins américains, ont expérimenté sur plein de malades avec des résultats fantastiques, voire miraculeux. Vous avez peut-être lu le livre « Vitamine C et cancer ». Pourquoi, à partir de 1981, où le sida a démarré, où Pauline devait avoir pour la troisième fois le prix Nobel, pourquoi cette vitamine C est rentrée complètement dans les oubliettes, sauf certains médecins qui ont publié certains livres comme « La vitamine C, notre ange gardien ». Vous avez fait allusion aux aliments frais, etc. Alors là, vous allez me dire le secret politique qui se cache derrière cette vitamine C. Et moi... tous les médecins savent et personne ne les prescrit.
Allez, je vais...
À 93 ans, en prenant de la vitamine C pendant toute sa vie, on l'a accusé d'être mort du cancer parce qu'il avait pris de la vitamine C à haute dose toute sa vie. 10 grammes par jour.
Merci. Je vais pas vous dire la vérité sur ce domaine. J'ai lu tous les bouquins de Pauline, de Linus Pauling, et j'ai été passionné, et j'étais un grand adepte de la théorie antioxydante à la fin des années 60. Je suis aujourd'hui un peu moins convaincu qu'on puisse tout régler par ces antioxydants. La littérature en matière des effets de vitamine C est extrêmement riche et elle est contrastée. Il y a des effets positifs, incontestables. Il peut y avoir des effets négatifs chez certains types de sujets. Alors, qu'on tente le coup d'une thérapie intensive à la vitamine C quand on est confronté à des problèmes majeurs comme certains types de cancers, je pense qu'il faut y aller. Hein. Mais pour l'ensemble de la population, bon, je pense que vous savez bien ce qu'on en fait de la vitamine C. Hein. Si on en consomme trop, on l'élimine. On l'élimine, alors c'est un peu dommage d'acheter la vitamine C pour la retrouver dans la cuvette des toilettes. Bon, Si, j'ai lu Pauline. J'ai lu et je le connais bien. Mais je suis d'accord et je l'ai lu.